Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse de divine consolation. Le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, priez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous sommes donc maintenant sur le polycopier du cours sur la somme théologique de Saint Thomas d'Aquin, qui est sur le site en bas de la page 57. Nous allons commencer la question 79 de la prima seconde, première partie, la deuxième partie. Question 79, article 1. Donc, je voudrais rapidement résumer les articles que j'ai sautés, donc, puisque le dernier que j'avais étudié à fond, c'était article 2 de la question 76. Il y a donc des choses que j'ai laissées un peu de côté, je ne peux pas parler de tout, encore une fois, ce n'est pas un cours de haute théologie suivant chaque article exactement pied à pied, ça, je ne peux pas faire ça encore, mais c'est un cours pour vous présenter ce qu'est la somme de saint Thomas, vous faire aimer saint Thomas. Donc reprenons rapidement donc, ce que saint Thomas a déjà expliqué. Donc dans la question 76, il parle de l'ignorance considérée comme cause du péché. Et il explique bien donc que l'ignorance de choses qu'on n'est pas tenu de savoir n'est pas un péché. Et que l'ignorance de choses qu'on est tenu de savoir à cause de son devoir d'État, surtout pour ceux qui sont en charge de TAM, est un péché. L'ignorance, dit-il, qui produit l'involontaire d'une manière absolue, excuse totalement du péché. Si la raison, la volonté n'est pas vicié, c'est-à-dire si la personne n'a pas la volonté d'offenser le bon Dieu, là, il n'y a pas de péché. Il peut même y avoir, je vous l'ai déjà expliqué la dernière fois, des cas d'ignorance invincible. J'ai là ici une citation d'un docteur de l'Église, saint Alphonse de Ligorie, qui parle justement d'ignorance invincible. C'est important de connaître cette citation, surtout pour lutter contre les erreurs des phinéistes qui prétendent que l'ignorance invincible n'existe pas. Mais voilà ce que dit un docteur de l'Église, saint Alphonse de Ligorie, qui est le patron de tous les confesseurs. On reconnaît, dit saint Alphonse de Ligorie, que l'ignorance ou l'erreur est invincible de la part de celui qui agit lorsqu'il ne s'élève dans son esprit aucun doute, aucun soupçon, pas même une idée confuse touchant la malice de l'action qu'il croit permise. Et donc, il y a, dit ce docteur de l'Église, ignorance invincible dans certains cas, même si Dieu seul, encore une fois, peut savoir qui est dans un cas d'ignorance invincible. Saint Thomas explique que la négligence volontaire est incapable du moment qu'elle porte sur des points que l'on peut et que l'on doit savoir. Pardon, la négligence volontaire étant coupable du moment qu'elle porte sur des points que l'on peut et que l'on doit savoir. Ça va contre notre devoir d'État. L'ignorance, dans ce cas-là, qui en résulte, ne disculpe pas entièrement du péché, parce que ça fait partie des choses qu'on est obligé de savoir. Quelqu'un qui ne connaît pas les règles du code de la route n'a pas le droit de prendre la voiture pour rouler, même s'il a un permis de conduire. L'ignorance invincible est celle qui concerne des matières que l'on n'est pas obligé de connaître. Voilà ce qui excuse toute faute morale. Alors l'ignorance, dit saint Thomas, est un motif de pardon, donc elle diminue le péché. Il est plus facile de pardonner à quelqu'un qui est ignorant, même si cette ignorance vient de choses qu'il n'a pas assez étudiées. sauf dans le cas particulier, encore une fois, où il manque gravement son devoir d'État, et surtout dans le cas où on parle d'une ignorance supine ou crasse, ça veut dire une ignorance qui est volontaire, dire je n'étudie pas telle chose pour pouvoir pécher en toute tranquillité. C'est ce que dit saint Thomas ici. Il arrive parfois qu'une telle ignorance est elle-même directement volontaire, par exemple lorsqu'on ne veut pas savoir certaines vérités pour pécher avec plus de licence. Donc, je n'étudie pas ce que je dois faire, comme ça j'ai une excuse pour mal agir. Cette ignorance crasse, évidemment, est une hypocrisie formelle, et bien sûr une faute grave. Mais ceci dit, on garde le principe établi par saint Thomas qu'un acte fait sans connaissance est moins coupable. Et si la volonté n'a pas été enclenchée, c'est-à-dire qu'on ignore totalement ce qu'on fait, que ce qu'on fait quelque chose de mal, dans ce cas-là, il n'y a même pas de péché dans certains cas. Alors la volonté peut être même mue dans certains cas par des passions de l'appétit sensitif. De là vient que, dit saint Thomas, si l'appétit sensitif est dominé par une passion, la volonté perd de son énergie ou cesse toute action. Encore une fois, si la volonté n'agit plus, il n'y a pas de péché. Les hommes subjugués par une passion ne détournent pas facilement leur imagination des choses qui en sont l'objet. Alors, le péché peut venir du fait que cette passion a augmenté dans notre âme et qu'on n'a pas bloqué la chose dès qu'on s'en est rendu compte. Saint Thomas explique, si donc la raison se conforme la plupart du temps aux passions d'appétit sensitif, la volonté qui est faite pour suivre toujours le jugement de la raison est également mue par ses passions. Donc si sciemment, volontairement, je laisse les passions subjuguer ma volonté, je suis coupable. C'est résumé très bien dans un texte de Saint Paul. Saint Paul Romain, chapitre 8, verset numéro 23. Je vois, dit-il, dans mes membres une autre loi qui contrarie la loi de mon esprit et me captive sous la loi du péché. Ce qu'on appelle le combat spirituel, le combat entre deux volontés. D'une part, la volonté du bon Dieu qui nous pousse vers le haut. D'autre part, la volonté humaine, notre volonté propre qui nous pousse vers le bas. Le problème, c'est que le bon Dieu ne nous considère pas comme des esclaves et donc respecte notre libre arbitre. Et donc, si je refuse de suivre notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, je suis coupable volontairement. Donc, les passions sont les maladies de notre âme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les passions sont des infirmités. Même des païens, un païen comme Cicéron, par exemple, avait vu ça. Il explique que les passions sont les maladies de notre âme et que maladie est synonyme d'infirmité. L'âme, en effet, dit saint Thomas d'Aquin, est pareillement infirme lorsque le désordre de ses parties l'empêche d'accomplir ses opérations, ce qui arrive toutes les fois que les mauvaises passions assiègent les facultés inférieures. Facultés inférieures sont très sensibles aux passions, c'est juste au-dessus des passions, si vous voulez, ou avec les passions, et donc la passion peut exercer un ravage au niveau des facultés inférieures, de la volonté. Dès qu'une passion quelconque affecte, contrairement à la raison, ou le concupiscible ou l'irascible, de manière à entraver l'action de l'âme, on dit que l'homme pèche par infirmité. Donc, encore une fois, si je laisse volontairement les passions prendre le dessus sur moi, je pèche gravement. Plus la passion est violente, plus l'infirmité de l'âme est grande. La volonté conserve le pouvoir de consentir, de ne pas consentir aux impulsions des passions, mais son assentiment ou ce dissentiment est néanmoins entravé. Vous voyez que ça s'oppose, cette doctrine de saint Thomas d'Aquin s'oppose totalement aux doctrines modernes, surtout les doctrines qui tournent autour de la psychanalyse de Freud, qui disent qu'au contraire, il faut exalter les passions. Les passions, c'est des pulsions naturelles de l'homme et qu'il faut au contraire les faire sortir et les suivre. Imaginez quelqu'un qui a une passion, qui est un kleptomane par passion, il a laissé le vol rentrer dans son esprit, il vole toute la journée, il s'arrange à consulter je veux dire, à collectionner les portefeuilles. Eh bien, il est coupable d'avoir laissé cette passion augmenter en lui et prendre le dessus de sa passion, le dessus, pardon, de sa volonté. Il ne peut pas dire, ah mais c'est plus de ma faute, c'est quelque chose que je ne peux plus contrôler. Mais vous ne pouvez plus contrôler la chose parce que volontairement, vous avez laissé cette passion pour le vol, pour le bien d'autrui qui ne vous appartient pas, vous avez laissé cette passion prendre le dessus. À ce moment-là, il y a faute, évidemment. D'accord? C'est important de répondre, de savoir comment répondre à tous ceux qui vous disent, hein, mais c'est quelque chose de passionnel chez lui, c'est cette personne, c'est quelque chose qui relève de la nature, c'est sa nature qui est faite comme ça, il a une tentation de prendre les portefeuilles des voisins, bon ben, il faut respecter ses passions parce que tout ce qui est naturel est bon. Attention, l'homme est vicié par le péché originel. Quand quelqu'un me dit ça, je dis, bon, ben écoutez, voilà, monsieur, puisque vous prétendez que tout ce qui est naturel est bon, eh bien voilà, par naturel, je suis kleptomane, encore une fois, et je viens de vous voler votre portefeuille. Merci de me le laisser, parce qu'il faut respecter en moi cette tentation que j'ai de voler le portefeuille des voisins. En général, la personne réagit assez violemment dans ces cas-là. Et c'est important aussi pour répondre à tous ceux qui disent qu'il faut respecter la nature qui pousse certaines personnes à avoir des comportements antinaturels, tous les vices contre nature d'aujourd'hui qui fleurissent partout malheureusement. Eh bien, la volonté est toujours là. Le libre arbitre est là et le bon Dieu, par la loi naturelle, nous indique qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Même si ma volonté me pousse à tuer mon enfant par avortement, au fond de moi-même, je sais très bien que Dieu a dit tu ne tueras pas. Même si le bon Dieu me pousse à faire des choses contre nature, entre deux personnes du même sexe, eh bien, il y a quelque chose qui en moi me dit que je n'ai pas le droit de le faire parce que justement, le bon Dieu est au-dessus de tout ça. C'est pas parce que quelqu'un a une nature corrompue à cause du péché, pour toute autre raison, eh bien, ça ne veut pas dire pour autant qu'il a le droit de suivre cette faiblesse de la nature. Alors, Saint Thomas va se poser évidemment la question de savoir d'où vient. Quel est le principe de tout péché? Eh bien, il répond clairement, le principe de tout péché, c'est l'amour de soi-même. Rappelez-vous cette phrase magnifique, l'amour de soi-même, dit saint Augustin, qui va jusqu'au mépris de Dieu, élève la cité de Babylone jusqu'au mépris de Dieu. Donc, l'amour de soi-même, qui va jusqu'au mépris de Dieu, crée la cité terrestre, alors que l'amour de Dieu, qui va jusqu'au mépris de soi-même, élève la cité céleste. Cité céleste nous mène vers le ciel, cité terrestre nous mène vers l'enfer. Donc tout péché provient donc d'un désir déréglé des biens d'ici-bas. On ne recherche ces biens d'une manière désordonnée que par un amour déréglé de soi-même. Donc l'amour désordonné de soi est le principe de tout péché. L'amour désordonné de soi, c'est quoi? Mais l'amour désordonné de soi-même, c'est tout simplement l'orgueil. L'amour bien ordonné de soi-même est légitime et naturel. Nous pouvons rechercher les biens qui conviennent à notre nature. Éclairé par la grâce, bien sûr, mais l'amour désordonné de soi-même, qui conduit au mépris de Dieu, forme la cause du péché. C'est le péché d'Adam et Ève. C'est le péché d'Adam et Ève. Ils savaient très bien que Dieu avait dit, vous ne mangerez pas du fruit de la connaissance, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais Adam a vu que le fruit était bon, il s'est fait tromper par sa femme, et il a mangé le fruit défendu. Et évidemment, les conséquences sont là tous les jours, qui s'étalent devant nous. Alors on peut donc assigner raisonnablement comme cause des péchés, de façon donc générale, l'amour de soi-même, d'orgueil, et de façon plus particulière, nous pouvons raisonnablement assigner, dit saint Thomas, comme cause des péchés, la concupiscence de la chair, la concupiscence des yeux, l'orgueil de la vie. C'est ce que dit saint Jean, l'apôtre saint Jean, le premier épître de saint Jean, chapitre 2, verset 16. Tout ce qui est dans le monde, notez, il dit tout, théoïté, tout ce qui est dans le monde, et ou concupiscence de la chair, ou concupiscence des yeux, ou orgueil de la vie. C'est partout. Mais après, il faut expliquer un petit peu des choses qui sont évidentes, mais qu'on réexplique rapidement ici. La concupiscence de la chair comprend les choses qui entretiennent la vie humaine, soit dans chaque individu, comme le boire et le manger, soit dans la race humaine, comme les plaisirs sensuels. Donc, on appelle la concupiscence de la chair. Concupiscence des yeux, au contraire, concerne la convoitise des objets qui exercent leur charme par l'imagination, par les idées de l'opinion. En un mot, les choses que l'on voit soi-même ou qui sont vues par les autres, comme l'argent, les habits, les ornements, toutes ces choses-là. Regarde la concupiscence des yeux. La concupiscence des yeux est quelque chose qui est de plus en plus évident dans le monde moderne. Il suffit d'aller dans un supermarché aujourd'hui et voir comment ils disposent les choses de façon à exacerber justement la concupiscence des yeux. L'orgueil de la vie, troisième concupiscence, est l'appétit désordonné de la grandeur, de l'élévation, généralement de tous les biens rares et difficiles. C'est l'appétit désordonné de soi-même. L'amour, désordonnée de soi-même. Toutes les causes du péché peuvent donc se ramener à ces trois genres de concupiscence, les yeux, la chair, l'orgueil, qui comprennent toutes les passions du concupiscible et de l'irascible. Toutes les passions, les 11 passions de l'âme, donc vont regarder ou le concupiscible ou l'irascible. Vont travailler avec le concupiscible ou l'irascible, soit par un attachement, une tentation désordonnée de posséder certaines choses, un grand désir de posséder des choses contre l'usage de la raison, soit en faiblissant devant les obstacles. Donc saint Thomas se demande si la passion donc, diminue le péché. Donc il fait une distinction. Les passions qui précèdent l'acte du libre arbitre diminuent nécessairement le péché parce que l'acte est moins volontaire. Puis il y aura un cas d'ignorance au moins partiel. Au contraire, les passions qui suivent l'acte du péché, qui suivent l'acte du libre arbitre, évidemment, augmentent la gravité du péché. Plus la tentation est violente, moins le péché est grave. Si cette tentation vient de passions qui précède le péché. Il faut évidemment comprendre ce que veut dire saint Thomas. Il est évident que si volontairement j'ai laissé encore une fois les passions prendre le contrôle de mon âme, eh bien, je suis responsable des conséquences. Alors, la question se pose de savoir si la passion excuse totalement du péché. Donc on a déjà répondu avec saint Thomas, un acte mauvais dans son genre n'est totalement excusable qu'autant qu'il est involontaire à tous égards. Si vraiment je suis dans un cas d'ignorance invincible, j'ignorais totalement que la chose était interdite par le bon Dieu, il n'y a pas de péché. Il peut y avoir des cas de choses très graves et qui sont interdites par la loi du bon Dieu, mais on est dans un cas d'ignorance invincible, au moins d'ignorance invincible partielle. L'exemple que je donne souvent quand les gens me posent des questions là-dessus, c'est un exemple que j'ai déjà donné souvent en cours, le cas d'une personne qui est moderniste, donc il va à la messe moderne de Vatican II, qui a pris ses conseils auprès d'un ministre de l'église de Vatican II, un prêtre de l'église de Vatican II, et qui va voir son curé au début de son mariage, et puis qui demande au curé, est-ce que je peux prendre la pilule contraceptive? Le curé de l'église de Vatican II va lui dire, évidemment, mais oui, bien sûr, pas de problème. Donc elle prend pendant plusieurs années la pilule contraceptive, anticonceptionnelle. Et au bout de 4, 5, 10 ans de mariage, elle vient suivre une retraite d'Ignatius Saint-Ignace avec un prêtre traditionnel de l'Église catholique. Et à ce moment-là, elle découvre, en posant la question au prêtre, que l'usage de la pilule contraceptive est interdit moralement. Elle arrête immédiatement l'utiliser, justement parce qu'elle vient de se rendre compte que c'est quelque chose de péché, que le prêtre de l'Église de Vatican II lui a menti dans le passé. Et bien, dans ce cas-là, si vraiment elle ne se posait aucune question sur le plan moral, pendant toutes les années où elle a vécu avec la pilule, au moins sur ce sujet-là, il n'y a pas de péché, parce qu'elle était dans un cas d'ignorance. Mais par contre, si la passion était volontaire dans sa cause, les actes sont imputés à péché. Donc la passion qui enlève totalement l'usage de la raison, qui n'a pas été volontaire par son principe, excuse de tout péché. Celle qui ne suspend pas entièrement l'usage de la raison, qui est volontaire par son principe, n'excuse pas totalement. Donc il y a des tas de distinctions à faire. C'est là où la vertu de prudence doit intervenir. Alors saint Thomas va plus loin en se demandant, mais est-ce que dans ce cas-là, est-ce que les péchés de passion peuvent être mortels? Et il répond positivement, les péchés causés par les passions peuvent être mortels. D'où, dans les mouvements subis d'une passion, où la raison n'est pas appelée à délibérer, il n'y a point de péché grave, parce que la raison n'intervient pas. Mais quand un homme passe de ses premiers mouvements aux actes extérieurs ou au consentement délibéré, cela ne se faisant pas subitement, la raison a le temps d'intervenir pour rejeter la passion ou pour en empêcher les effets. Quand elle n'intervient pas, il y a péché mortel. Beaucoup d'homicides, d'adultères se commettent par passion. Donc, si la volonté accepte l'acte pécamineux en sachant très bien que c'est pécamineux, il y a faute grave. Rappelez-vous la définition d'une faute grave, il faut matière grave, plein de consentement, plein de connaissances. La chose que je veux faire est interdite par la loi du bon Dieu, je m'en fiche, je le fais quand même. C'est interdit par la loi du bon Dieu sous peine de péché mortel, matière grave. Je sais que c'est interdit par la loi du bon Dieu sous peine de péché mortel, consentement. Ça fait rien, je le fais quand même. Il y a la connaissance, la matière grave, la chose est importante. Connaissance, je sais que c'est interdit par la loi du bon Dieu, c'est peine de péché mortel. Consentement, Je le fais quand même. Alors, je résume encore une fois les parties que je n'ai pas expliquées sur le polycopier. Saint Thomas, la question 78, va étudier la malice considérée comme cause du péché. Le péché, dit-il, se produit dans les actes humains par la faute de la raison, de l'appétit sensitif ou de la volonté. Dans le premier cas, c'est-à-dire quand c'est la raison qui est utilisée, si je vais. Dans ce cas, s'il n'y a pas de raison, il y a péché par ignorance. Dans le deuxième cas, c'est-à-dire l'appétit sensitif, l'appétit sensible, si on l'accepte, on pêche par passion. Et troisième cas, au niveau de la volonté, si on va contre l'usage de notre volonté, contre la manifestation de la volonté, on pêche par malice. Donc il peut y avoir trois choses, l'ignorance, la passion, la malice. Donc tomber dans le désordre, explique saint Thomas d'Aquin, c'est choisir le mal par pure malice. Ou des desseins informés, c'est là ce qu'il appelait péché de malice. Péché de malice, c'est ça. Il peut y avoir, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, il peut y avoir des péchés graves qui sont des péchés de faiblesse. Le péché de malice s'oppose au péché de faiblesse. Malice, ça veut dire, je sais que c'est interdit, mais ça fait rien, je veux le faire quand même et je continuerai de rester comme ça. Péché de faiblesse, on le voit tout de suite au confessionnal lorsque quelqu'un commet une faute grave et vient se confesser immédiatement. Prends la voiture tout de suite, passe un coup de téléphone après, monsieur l'abbé, il faut que je me confesse, vous pouvez me confesser tout de suite s'il vous plaît. La personne vient dès que le prêtre est libre. À ce moment, en général, il y a péché de malice. Il y a péché de faiblesse, pardon. Ça ne veut pas dire encore une fois que ce n'est pas un péché grave. Il peut y avoir des péchés graves de faiblesse. Les péchés graves de faiblesse, c'est beaucoup moins sérieux qu'un péché grave de malice. Nul ne veut le mal pour le mal. Mais on peut le vouloir pour éviter un autre mal ou pour obtenir un bien. Le débauché voudrait jouir de ses plaisirs sans offenser Dieu, mais forcé de choisir, il aime mieux offenser Dieu que d'y renoncer. Alors, dans certains cas, les habitudes vont entrer en jeu aussi, en ligne de compte. C'est le vice, c'est plus un acte isolé, c'est un acte répété qui transforme un péché en vice. Les habitudes n'obligent pas à les suivre, elles laissent à la volonté le pouvoir de leur résister. Mais toutes les fois que l'on se sert sciemment et à dessein d'une habitude vicieuse, on pêche nécessairement par malice délibérée. Donc il ne faut pas dire maintenant c'est un vice, donc je ne suis plus responsable de ce que je fais parce que c'est une chose que je ne peux plus contrôler. Qui a fait rentrer ce vice dans votre âme? Qui a laissé ce vice rentrer dans votre âme? Il faut voir tout ça, bien comprendre tout ça. Le péché donc de malice délibérée suppose nécessairement une mauvaise disposition de la volonté, mais n'est pas toujours une habitude. L'habitude ajoutée au péché de malice conduit l'homme à faire le mal avec joie. Donc il n'y a aucune contrition et c'est vraiment pratiquement un péché contre le Saint-Esprit. C'est-à-dire que je refuse toute contrition de mes péchés. Je me maintiens volontairement dans l'acte pécamineux. Le péché de malice, dit saint Thomas, tient plus de la volonté que le péché commis par passion. Le péché de malice a plus de persévérance et de durée. Il porte plus directement sur les fins qui servent de principe aux actions. Donc, il a d'une part plus de persévérance, d'autre part plus de durée, d'autre part, il porte plus directement sur les fins qui servent de principe aux actions. Pour ces trois raisons, il est plus grave. Donc, d'une part, le péché de malice entraîne plus de persévérance parce que c'est un vice qui est entré beaucoup plus profondément dans l'âme, qu'on a laissé rentrer dans l'âme. Il porte plus directement donc aussi au niveau de la durée. Donc évidemment, les racines sont plus profondes et donc il y a des conséquences beaucoup plus graves. Et il porte directement sur sur les fins qui servent de principe aux actions. L'exemple qu'on donne toujours pour expliquer ça, c'est l'exemple d'un jardinier qui, par faiblesse, laisse dans un parterre de fleurs, par exemple, il laisse les mauvaises herbes pousser. Il sait qu'il devrait les arracher tous les matins, et tous les matins, il doit les arracher, et que s'il venait tous les matins faire le tour de son jardin, il suffirait qu'il passe 5 minutes dans le parterre et il enlève la dizaine de mauvaises herbes qui est là, il n'y a aucun problème. Mais par paresse, il laisse le jardin sans soin pendant un mois. Et il vient au bout d'un mois, évidemment, c'est une forêt vierge. C'est une forêt vierge, on ne distingue même plus les mauvaises herbes des bonnes herbes. Alors là, il n'arrive même plus à enlever certaines mauvaises herbes parce qu'elles se sont transformées en petits arbres. Et les racines sont tellement profondes, eh bien, qu'il n'y a plus rien à faire. Ça, c'est la malice. Alors nous attaquons maintenant la question numéro 79. Donc on est sur le polycopier en bas de la page 57 de la cause du péché par rapport à Dieu. C'est une question très importante. Donc on va voir un petit peu tout ça, surtout l'article 1, la question 79, l'article 4. Attendez, je ne vous dis pas de bêtises. L'article 1 de la question 79, l'article 3 et l'article 4 de cette question 79, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir dans cette question 79. De la cause du péché par rapport à Dieu. Alors, évidemment, la question est la suivante. Dieu est-il cause du péché? Est-ce que je peux dire, le bon Dieu, il peut faire des miracles, il aurait pu me donner la grâce pour que je ne tombe pas. Le bon Dieu ne m'a pas donné la grâce, je suis tombé, mais ce n'est pas de ma faute, c'est parce que le bon Dieu ne m'a pas donné la grâce. C'est une objection qu'on entend très souvent. C'est la faute du bon Dieu. La faute du bon Dieu, le bon Dieu, il pouvait me donner la grâce, il ne me l'a pas donné, donc je suis tombé. On répond très facilement avec l'exemple de Saint Paul, un exemple que j'ai souvent donné en cours. Saint Paul qui avait un aiguillon dans la chair, sans doute une tentation d'impureté très forte, et qui trois fois demande à notre Seigneur Jésus-Christ de l'en délivrer. C'était le grand Saint Paul, hein, un des plus grands saints de l'Église. Et qu'est-ce que lui répond Saint Paul? Que répond le bon Dieu à Saint Paul qui le supplie à deux genoux, enlevez-moi cette tentation qui m'empêche de faire mon devoir d'État, qui m'empêche de travailler, qui m'empêche de prêcher correctement, ça me gêne énormément. S'il vous plaît, enlevez-moi cette tentation très forte, cet aiguillon dans la chair que j'ai. Qu'est-ce que répond notre Seigneur? Ma grâce te suffit. Point final. Ma grâce te suffit, donc vous avez tout ce qu'il vous faut pour lutter. Et le grand Saint Paul n'a pas eu de réponse positive à sa demande. Et le bon Dieu le savait, lui qui est sage dans la sagesse, qui est la sagesse incarnée, ben notre Seigneur Jésus-Christ a donné à Saint Paul les grâces dont il avait besoin pour répondre. Évidemment, si on ne veut pas utiliser les grâces du bon Dieu et qu'on cherche à garder le bon chemin par ses propres forces, à ce moment-là, encore une fois, on tombe dans l'orgueil et c'est fini. Dieu a de la haine pour le péché. Donc il haït, il est, H-A-I-T, l'impie et son impiété. Il n'est donc pas la cause du péché. C'est dans Saint Thomas. Donc on voit que Dieu, que l'homme, pardon, peut être de deux manières cause du péché. Il peut être cause du péché pour lui et pour autrui. Pour autrui, quand on est cause du péché d'autrui, c'est ce qu'on appelle le péché de scandale. Donc il y a un scandale direct. Scandale direct, j'ai déjà expliqué ça souvent. Donc l'homme peut être de deux manières cause du péché, soit d'une manière directe, soit d'une manière indirecte. Soit d'une manière directe lorsqu'il incline sa volonté ou celle d'autrui à pécher directement, soit d'une manière indirecte lorsqu'en certains cas, il ne retire pas les autres du péché, surtout quand il est en charge. C'est l'exemple que je donne très souvent parce qu'il est très clair, je crois. Bon, une jeune femme qui va faire ses courses de façon habillée de façon provocante, elle commet directement un péché contre la pureté. Une mère de famille qui laisse sciemment sa fille s'habiller de façon indécente pour aller faire ses courses, la jeune fille part avec ses petites amies pour faire des courses habillées de façon indécente, la maman est responsable au moins en partie de tous les péchés qui vont être commis à cause justement du fait qu'elle est en charge de cette jeune fille. Et le papa, qui est chef de famille, est aussi responsable et du péché de sa femme et du péché de sa fille. Bon, certes, il ne faut pas tout mettre sur le dos du chef de famille, mais comme il est chef de famille, c'est lui qui est responsable. De la même façon qu'Adam est responsable du péché d'Ève, dans le sens qu'il a accepté les conséquences. Si Adam n'avait pas accepté de manger le fruit défendu à la demande de sa femme Ève, le péché originel n'aurait pas été transmis à la postérité. Et donc on voit l'importance de la responsabilité, justement l'importance de la responsabilité de ceux qui sont en charge. Je suis en charge, je dois utiliser mon autorité que le bon Dieu m'a donnée sur telle personne, sur mes paroissiens, sur mes enfants, pour justement les empêcher de pécher. Alors, nous sommes donc en bas de la page 57 du polycopier. Donc je répète, l'homme peut être de deux manières cause du péché, soit d'une manière directe s'il incline sa volonté ou celle d'autrui à pécher, d'une manière indirecte lorsqu'en certains cas, il ne retire pas les autres du péché.
page 58 en haut. Saint Thomas cite le prophète Ézéchiel qui dit au veilleur, si tu ne dis pas à l'impie tu mourras, c'est à toi que je demanderai compte de son sang. Tu es veilleur, tu dois surveiller la conduite des autres, tu ne l'as pas fait, tu es responsable. Alors attention, Dieu ne peut pas être directement en cause du péché, ni pour lui, ni pour autrui. Dieu ne peut pas vouloir directement le péché, c'est impossible parce que Dieu est Dieu. Étant Dieu, il est infiniment bon et infiniment parfait. S'il voulait directement le péché pour autrui, il ne serait pas parfait, donc il ne serait pas Dieu. Tout péché se fait par éloignement de l'ordre qui a Dieu pour fin. Je vous l'ai déjà expliqué souvent, le péché c'est un désordre qui s'introduit dans l'âme. Par contre, le don d'intégrité. L'intégrité, c'est l'ordre. Quand il y a de l'ordre dans une âme, il n'y a pas de péché. Dès que le désordre s'installe, le péché arrive et le péché entraîne le désordre. Donc le désordre entraîne le péché augmente le désordre. C'est un peu un cercle vicieux. Donc il est impossible pour Dieu qu'il soit cause d'éloignement pour lui-même ou pour les autres d'un ordre qui est tout orienté vers lui. Il ne peut donc être directement cause du péché. Il ne peut pas non plus être indirectement cause du péché. Car il lui arrive de ne pas donner à certains le secours dont ils auraient besoin pour éviter les péchés. S'il le leur accordait, ils ne pécheraient pas. Mais Dieu fait cela selon l'ordre de sa sagesse et de sa justice, puisqu'il est lui-même sagesse et justice. Encore une fois, c'est l'exemple de saint Paul. Dieu a voulu que saint Paul se sanctifie de façon plus forte encore, et donc lui a refusé cette grâce. Vous voulez, la grâce du bon Dieu ne détruit pas la nature, la grâce du bon Dieu élève la nature. Donc la grâce du bon Dieu est toujours donnée à celui qui la demande avec humilité. Il faut c'est une partie, si vous voulez, de la théologie de l'Église qui est mystérieuse, hein, qui est une chose difficile à accepter. Certaines personnes en travaillant trop ce point de doctrine ont perdu la foi. Et certains grands saints ont failli perdre la foi justement parce qu'ils sont trop occupés de ces choses-là. Ils se disaient, si le bon Dieu donnait ses grâces, personne ne pécherait. Donc, c'est la faute du bon Dieu si on pêche. attention, le bon Dieu respecte notre libre arbitre. Notre nature humaine est là avec le libre arbitre que le bon Dieu nous donne. Et le bon Dieu nous donne toujours la grâce de ne pas tomber. On verra ça plus tard. Plus tard, dans le dernier traité de la Prima Secondé, le traité sur la grâce, donc le bon Dieu, qui sait que quelqu'un, qui sait par avance, il sait tout, qui sait que quelqu'un ne va pas tomber après une tentation, va donner à cette personne pour ne pas tomber, ce qu'on appelle une grâce efficace, mais quand il sait par avance, puisqu'il sait tout en tant que Dieu, que cette personne malheureusement va tomber, bien cette personne ne va recevoir qu'une grâce suffisante. Et encore une fois, il faut maintenir les deux choses. D'une part, la toute-puissance de la grâce, mais en même temps, le fait que cette grâce respecte notre libre arbitre. C'est un grand mystère. Là, on touche au mystère de prédestination, dont on a déjà parlé dans ce cours plusieurs fois. Et encore une fois, là, il faut faire très attention. Donc, tous ces faits sont l'ordre de la sagesse et de la justice divine. Le bon Dieu sait ce qu'il fait. C'est vrai qu'on pourrait se demander, beaucoup de gens nous font cette objection, même si vous savez, qu'est-ce qu'il fait le bon Dieu? Pourquoi est-ce qu'il n'intervient pas pour nous donner un pape, pour donner des évêques, pour nous donner des gens qui ont la foi catholique, pour nous donner un Saint-Louis comme chef d'État? Pourquoi il nous donne des gens qui sont complètement pourris sur le plan moral? Pourquoi est-ce qu'il nous donne en absence d'autorité? Pourquoi on n'a pas d'autorité légitime au-dessus de nous dans l'Église actuellement? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que le bon Dieu ne fait pas quelque chose? C'est de sa faute s'il y a une telle pagaille. Attention, le bon Dieu sait ce qu'il fait et nous donne, vous donne les grâces dont vous avez besoin pour tenir le coup, vous et moi. Donc Dieu ne peut être, dit saint Thomas, ni directement ni indirectement cause du péché. Directement, parce qu'évidemment il ne peut pas vouloir le mal directement, mais il peut le permettre. Pourquoi le bon Dieu permet-il le mal? Est-ce que le bon Dieu pourrait empêcher le mal d'exister? Bien sûr qu'il pourrait. Mais à ce moment-là, l'homme ne serait plus un être libre, il serait une machine, il deviendrait une machine. Il se deviendrait comme un esclave. Le bon Dieu ne veut plus que nous soyons des esclaves, il veut que nous soyons ses amis. Donc il nous laisse l'usage de notre liberté, l'usage de notre libre arbitre pour utiliser la grâce qu'il ne refuse jamais à ceux qui la lui demandent avec humilité. Il est évident que si je demande la grâce du bon Dieu avec orgueil, je n'obtiendrai rien du tout. Donc Dieu fait cela selon l'ordre de sa sagesse et de sa justice. On ne peut donc nullement lui imputer comme s'il en était la cause le péché de personne. Dieu n'a en aucune manière cause du péché, ni directement, ni indirectement. Alors, le bon Dieu tolère le péché. Le bon Dieu permet le péché. Il est évident que même des grands saints ont dû tolérer le péché. Malheureusement, on ne peut pas empêcher tous les péchés. On ne peut pas se promener avec une verge, avec un bâton et frapper tous ceux qui commettent des péchés. C'est impossible. Donc on est bien. De même que Dieu a toléré les péchés, il a cherché à convertir tout le monde. Il y a des personnes qui n'ont pas converti, qui n'ont pas changé, qui auraient pu devenir des grands saints, qui ne sont pas devenus des grands saints. Pensez au jeune homme riche qui vient voir notre Seigneur, lui demander: Seigneur, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Notre Seigneur lui dit: il faut suivre les commandements. Je le fais déjà, quoi d'autre? Notre Seigneur Jésus qui le regarde, l'aime d'une façon toute particulière, lui donne la vocation. Et lui dit: si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu as, viens, suis-moi. Et malheureusement, le jeune homme riche n'a pas voulu tout abandonner et suivre notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'il avait de grands biens. C'est la même chose pour nous. Alors, Dieu incline directement la volonté vers le bien, mais n'oblige pas notre volonté à aller vers le bien. Quant au mal, Dieu se borne à ne pas l'empêcher. Et cela même n'a lieu que parce que des fautes antérieures l'ont mérité. Pareillement, dit saint Thomas, le péché que le libre arbitre commet contre le commandement divin ne se rapporte pas à Dieu comme à sa cause. Dieu respecte notre libre arbitre. C'est la page 58, c'est le troisième paragraphe de la page 58. Je répète cette phrase qui est très importante. Quant au mal, Dieu se borne à ne pas l'empêcher. Donc il respecte notre libre arbitre. Et cela même n'a lieu que parce que les fautes antérieures l'ont mérité. Ces conséquences de nos faiblesses passées. Monseigneur Lefebvre, dans cette ligne de choses, nous a expliqué souvent l'histoire d'une altercation très forte entre le cardinal Ottaviani et le cardinal Béat dans les sessions de préparation au Concile Vatican II. Le cardinal Ottaviani représentait la ligne traditionnelle de l'Église, le cardinal Béat, qui était malheureusement aussi le confesseur du pape XII, le cardinal Béat, au contraire, représentait la ligne progressiste. Et le sujet de la discussion, c'était la liberté religieuse, la liberté de conscience, la liberté religieuse. Et tous les deux avaient préparé un schéma sur le sujet. Le cardinal Ottaviani avait préparé comme schéma un schéma qu'il avait intitulé de la tolérance des fausses religions. Et le cardinal Béat avait préparé un travail intitulé de la liberté des fausses religions, liberté religieuse. Et il y a eu une altercation très forte entre les deux. Et le pape Jean XXIII n'était pas là à ce moment-là. S'il avait été pape, les choses ne seraient pas passées comme ça. Et Jean XXIII n'était pas là à ce moment-là. Et donc, les choses sont passées devant Jean XXIII par la suite. Et malheureusement, Jean XXIII a poussé le cardinal Béat et a contré le cardinal Ottaviani. Mais le cardinal Ottaviani représentait justement la ligne traditionnelle de l'Église. On peut tolérer des fausses religions. Vous arrivez dans un pays dans lequel le pays est entièrement aux mains des animistes, par exemple, des gens qui pratiquent le fétichisme et tout ça, dans la punition, vous êtes bien obligé de tolérer les animistes partout, vous ne pouvez pas faire autrement. Bon, vous commencez de prêcher, vous commencez de prier, de faire pénitence, de veiller au bon grain, puis petit à petit, vous arrivez à convertir le pays. Une fois que tout le pays est converti, ou presque, à ce moment-là, oui, on peut imposer la foi catholique par les lois, mais on ne peut jamais l'imposer contre la volonté des gens. On ne peut pas obliger quelqu'un à se faire baptiser par obligation, c'est impossible. On ne peut pas l'obliger, si vous voulez, par contrainte. Il y a une liberté qui rentre en ligne de compte ici. Donc, le bon Dieu tolère le mal. Je donne souvent aussi comme exemple, un exemple qui choque beaucoup de gens, mais je le donne parce que c'est... Bon, je parle des adultes, je ne donnerai jamais cet exemple devant des enfants, mais c'est un exemple qui à mon avis, très éclairant. Le roi Saint-Louis est celui qui avait établi des maisons pour les prostituées. Pourquoi? Parce qu'il avait voulu empêcher que la chose se répande partout. Il se disait, en tant que roi catholique, c'est malheureusement un vice que je ne peux pas contrôler, je ne peux pas empêcher malheureusement l'existence de ces filles. Et donc, je les plaçais toutes dans une maison où je puisse au moins les contrôler médicalement, essayer de faire un petit peu de bien sur le plan spirituel pour obtenir la conversion de certaines, avec la grâce du bon Dieu, et pour empêcher ce désordre gravissime d'être partout dans les rues. Vous voyez ? Et c'est donc lui qui a institué ces maisons, vous voyez ? Pour justement obliger, par la force des choses, de tolérer un vice très grave. Ça veut pas dire qu'il était pour ce vice, bien sûr que non. Donc la faute, dit saint Thomas, s'oppose au bien de l'ordre ayant Dieu pour fin. C'est pourquoi elle s'oppose directement à la bonté divine. Donc, encore une fois, le péché se fait par éloignement de l'ordre qui a Dieu pour fin. Au contraire, la vertu se fait par un rapprochement de l'ordre qui a Dieu pour fin. Donc, la faute s'oppose directement à la bonté divine. À cause de cela, on ne peut pas raisonner sur la faute par analogie avec la peine. Le péché qualifie un être et une action affectée d'un défaut. Or, ce défaut vient d'une cause créée, le libre arbitre, en tant qu'il manque à l'ordre voulu par la première cause. Donc, ainsi, un tel défaut ne se ramène pas à Dieu comme à sa cause, mais au libre arbitre. C'est l'homme qui, par son libre arbitre, est responsable du péché qu'il commet. Ce n'est pas Dieu qui est responsable de ce péché. Dieu permet ce péché, malheureusement. Dieu, évidemment, pourrait retirer la vie de ce péché avant qu'il ne commette un péché, pour empêcher que le péché se fasse. Mais le bon Dieu, qui est pourtant première cause, respecte encore une fois les causes secondes. Dieu est la cause principale. Nous sommes les causes secondes. Et malheureusement, nous pouvons utiliser de travers les causes secondes. Et c'est, je crois, très important de bien comprendre ce texte. Alors, passons à l'article 3 de la question 79 de Prima Secondae. Donc, rapidement, je passe sur l'article 2. L'article 2, c'est la question suivante. L'acte de péché vient-il de Dieu ? Saint Thomas répond que l'acte du péché est un mouvement de libre arbitre et Dieu est la cause de tout mouvement. Donc Dieu est cause du libre arbitre. Par conséquent, la volonté divine est la cause de l'acte du péché comme de toutes les autres actions sur un plan purement matériel, si vous voulez. Mais le péché, en effet, est un acte défectueux qui, en ce qu'il a d'être, vient de Dieu. Son défaut vient de l'homme qui s'écarte de la loi divine. Donc le fait que le pécheur soit vivant pour pécher, ça vient de Dieu. Le fait que le pécheur vivant utilise son libre arbitre pour déplaire à Dieu et pour offenser le bon Dieu, ça vient de l'homme. Saint Thomas donne un autre exemple. Parce qu'il dit, le péché est un acte défectueux qui, en ce qu'il a d'être, vient de Dieu. Son défaut vient de l'homme qui s'écarte de la loi divine. La claudication, quelqu'un qui boite. Par exemple, à sa cause dans la jambe courbe du boiteux, la jambe trop courte, et non dans la force motrice qui produit ce qu'il y a de mouvement dans un homme. C'est ainsi que Dieu est la cause de l'acte, et non de la défectuosité de l'acte. Donc, je voulais, c'est un peu un autre exemple matériel qu'on peut donner. Imaginez un monsieur qui vend des armes de chasse, il vend un fusil de chasse à quelqu'un, et puis cette personne va utiliser ce fusil de chasse pour assassiner quelqu'un. Bon, eh bien, la personne qui a vendu l'arme n'est pas responsable du meurtre. Lui, il a fait que vendre, c'est son métier, il vend des fusils. Bon. Donc Dieu est responsable de l'être, mais pas des conséquences issues de l'usage, du faux, du mauvais usage du libre arbitre. Alors, question 79, article 3 de la prima seconde, la première partie, la deuxième partie. Dieu est-il cause de l'aveuglement, l'endurcissement de certains ? Alors, c'est un article très important. J'essaie de l'expliquer rapidement. Dieu est-il la cause de l'aveuglement, de l'endurcissement de certains ? Donc, Dieu prend pitié de qui il veut, il endurcit qui il veut. Là, c'est une phrase qui est difficile à comprendre, difficile à accepter. Pourtant, c'est comme ça que le bon Dieu travaille. Il y a des textes, par exemple d'Isaïe, prophète Isaïe, au chapitre 6, verset 10, où il dit aveuglez le cœur de ce peuple, appesantissez ses oreilles. Et saint Paul dit la même chose. Dieu a pitié de qui il veut, il endurcit qui il veut. Romains chapitre 9, verset 18. Mais attention, quand saint Paul dit Dieu a pitié de qui il veut, il endurcit qui il veut, Dieu n'est pas responsable du péché. Encore une fois, c'est avec le respect du libre arbitre. Donc l'aveuglement et l'endurcissement impliquent deux choses. D'abord un mouvement de l'âme humaine qui adhère au mal et se détourne de la lumière divine. Donc Dieu, évidemment, n'est pas cause de cet aveuglement et de cet endurcissement directement, parce qu'il n'est pas cause du péché, on a déjà vu ça. Mais cet aveuglement, cet endurcissement comporte une soustraction de grâce à la suite de quoi l'esprit n'est plus éclairé par Dieu pour bien voir, ni le cœur attendri pour bien vivre. Et à cet égard, Dieu est cause de l'aveuglement et de l'endurcissement. Alors, pour reprendre l'exemple que je vous ai déjà donné, Dieu sachant que telle personne serait aveuglée et endurcie dans le péché et continuerait de pécher, n'a donné à cette personne qu'une grâce suffisante. S'il avait donné une grâce efficace, la personne n'aurait pas péché. Cependant, encore une fois, et là est le mystère, Dieu respecte le libre arbitre et la personne est libre, complètement libre. Mais n'oublions pas que pour Dieu, Dieu qui voit tout, et puisqu'il est Dieu, il connaît le futur, il sait par avance comment on va répondre tel homme. Et donc, en fonction de cette réponse qu'il connaît, eh bien, il va donner une grâce efficace ou une grâce suffisante. Si c'est une grâce efficace, la personne peut éviter le péché. Si c'est une grâce suffisante, la personne n'évitera pas le péché, il va y tomber. Là, encore une fois, ça touche à la prédestination. C'est un sujet très difficile, très délicat, sur lequel il ne faut pas trop s'apesantir, parce que sinon on se décourage, on risque même de perdre la foi. Je vous l'ai déjà dit, saint François de Sales, saint Vincent de Paul ont eu des tentations terribles contre ces points de doctrine. Donc, Dieu n'est pas cause de l'aveuglement et de l'endurcissement, parce qu'il n'est pas cause du péché, qui adhère volontairement au mal, se détourne de la lumière divine, mais Dieu est cause de l'aveuglement et de l'endurcissement, dans le sens que cet aveuglement et cet endurcissement comportent une soustraction de la grâce, à la suite de quoi l'esprit n'est plus éclairé par Dieu pour bien voir. Donc, il faut considérer, dit saint Thomas, que Dieu est la cause universelle de l'illumination des âmes. C'est le deuxième paragraphe de la question 79, article 3, page 58 dans le polycopier. Et si saint Jean, il était la vraie lumière qui éclaire tout homme venant dans ce monde. Parce qu'il est le soleil, comme le soleil, dit-il, est la cause universelle de l'illumination des corps. Le vrai soleil, dit saint Thomas, donc il va prendre un exemple très simple pour expliquer. Le soleil répand sa lumière par nécessité de sa nature, tandis que Dieu agit volontairement et suivant le plan de la sagesse. Le soleil, autant que cela dépend de lui, éclaire bien tous les corps. Néanmoins, s'il en était un où il rencontre un obstacle, il le laisse dans l'obscurité. Par exemple, une maison dont les fenêtres sont demeurées closes. Vous fermez vos volets, il ne faut pas vous plaindre s'il n'y a pas de lumière dans la maison. Il n'y a pas de lumière dans la maison parce que les volets sont fermés. Donc il ne faut pas accuser le soleil. Il ne faut pas dire, je n'ai pas de lumière dans ma maison, c'est la faute du soleil. Non monsieur, ce n'est pas la faute du soleil, c'est vous qui avez laissé les volets fermés. Donc le soleil ne peut pas rentrer et la maison va rester dans l'obscurité, il ne faut pas vous plaindre. Si vous voulez avoir de la lumière, ouvrez les volets, à ce moment-là, le soleil pourra illuminer l'intérieur de votre maison. Encore une fois, le soleil ne va pas, en quelque sorte, vous obliger à ouvrir les volets pour pouvoir pénétrer dans votre maison. Non, il respecte les causes secondes. La cause première, c'est le soleil. La cause seconde, c'est la volonté de l'habitant qui ferme les volets de sa maison. Et la cause première respecte la cause seconde. Et l'existence de cause seconde n'enlève rien. La cause ne fait rien contre la cause première. Une cause seconde ne peut pas détruire la cause première. Parce que de toute façon, le monde est le patron. Je répète cet exemple qui est très très facile à comprendre, je crois. Le soleil, autant que cela dépend de lui, éclaire bien tous les corps. Néanmoins, s'il en était un où il rencontre un obstacle, il le laisse dans l'obscurité. Par exemple, une maison dont les fenêtres sont demeurées closes. Pourtant, la cause, cette obscurité, n'est nullement le soleil, puisque ce n'est pas par son propre jugement qu'il ne pénètre pas dans la maison. La cause est uniquement celui qui tient les volets fermés. C'est la personne qui est responsable. C'est pareil pour l'âme. Dieu, s'il n'envoie pas les rayons de la grâce dans les âmes où se trouve un obstacle, c'est par son propre jugement. Dieu est la sagesse même, la sagesse incarnée. Donc, Dieu sait ce qu'il fait. On ne peut jamais dire c'est la faute du bon Dieu. J'ai péché, c'est la faute du bon Dieu. On verra tout ça dans le traité sur la grâce. C'est même beaucoup plus fort que ça dans le traité sur la grâce. Puisque on peut vraiment aller dire avec le traité sur la grâce, on peut aller jusqu'à dire que si je commets quelque chose de mal, c'est de ma faute. Si je commets quelque chose de bien, c'est la grâce du bon Dieu qui agit. Donc dans tous les cas, c'est Dieu qui fait tout le travail. Attention, Dieu fait tout le travail, mais en même temps, il respecte notre libre arbitre. Voyons au bas de la page 58, donc c'est expliqué là. Pour Dieu, au contraire, s'il n'envoie pas les rayons de cette grâce, dans les âmes où il se trouve un obstacle, c'est par son propre jugement. Dieu va respecter les obèques. Les obèques, ce sont des empêchements. Donc s'il y a un empêchement, ben, Dieu va respecter cet empêchement. La cause, cette soustraction de grâce, n'est-elle pas seulement celui qui présente l'obstacle, mais encore Dieu qui, par son jugement, n'offre plus la grâce. Donc, si vous voulez, les deux personnes sont responsables. Dieu est la personne en question, mais Dieu respecte le libre arbitre de la personne qui ne veut pas la grâce du bon Dieu. Dieu est vraiment cause qu'on ne voit plus, qu'on n'entend plus, que le cœur est endurci. Donc, le bon Dieu permet l'endurcissement de certaines personnes. Le bon Dieu permet la conversion de cette personne. Je l'ai vu tout le temps après le prochain exercice. Parfois, des gens se convertissent, la plupart se convertissent. Certaines personnes, malheureusement, ne se convertissent pas. Pourquoi ? Le bon Dieu ne donne pas certaines grâces à certaines personnes. Et bon Dieu, c'est ce qu'il fait. On ne peut pas dire encore une fois, c'est la faute du bon Dieu. Vous voyez ? Encore une fois, il faut faire extrêmement attention à la façon dont on parle de ces choses-là. Vous voyez ? Ces effets se distinguent comme ceux de la grâce elle-même, car en même temps qu'elle perfectionne l'intelligence par les dons de sagesse, elle amollit le cœur au feu de la charité. Donc il faut faire très attention lorsqu'on est avec le bon Dieu, de garder les portes de notre âme ouvertes. Le bon Dieu frappe à la porte de mon âme, il ne va pas rentrer comme un voleur. Si je ne veux pas ouvrir les portes, eh bien, il reste dehors, il attend. Il va frapper. Il n'est pas obligé d'attendre pendant des heures et des heures, il peut attendre pendant un certain temps. Il faut craindre la grâce qui passe et qui ne repasse pas. Vous voyez, donc, j'ai vu ça dans certains cas aussi très pénibles de personnes qui avaient des grâces de conversion, ne les ont pas prises, donc ne se sont pas converties, puis plus tard auraient souhaité se convertir, n'ont pas pu se convertir parce qu'il n'y avait plus les grâces. Donc encore une fois, le bon Dieu sait ce qu'il fait, il ne faut pas accuser le bon Dieu d'être quelqu'un, si vous voulez, qui joue avec notre liberté. Non, il respecte notre liberté. Encore une fois, là on touche à des points qui sont difficiles. Alors, nous allons voir maintenant, ce sera plutôt pour la prochaine fois, donc l'article 4 de cette question 79, l'aveuglement et l'endurcissement sont-ils ordonnés au salut des pécheurs? Dieu a toujours en vue le salut des pécheurs. Il veut, sa volonté, c'est quoi? La volonté du bon Dieu, c'est que tout le monde aille au ciel. D'accord? La volonté du bon Dieu, c'est que tout le monde aille au ciel, mais malheureusement, dans la pratique, le bon Dieu respecte le libre arbitre de ceux qui ne veulent pas aller au ciel. Et malheureusement, des gens qui ne vont pas au ciel, tout simplement parce que ils n'ont pas voulu prendre les moyens pour y aller. Mais Dieu, sa volonté, la volonté, saint Thomas a fait une distinction très importante qu'on a déjà expliquée, de volonté antécédente, Dieu veut le salut de tous les hommes, de volonté conséquente, malheureusement, il permet que certaines personnes qui ne veulent pas suivre le bon Dieu se damnent parce qu'ils veulent rester dans le péché mortel. Le bon Dieu ne veut pas que personne se damne. Le bon Dieu ne veut pas que telle personne meure dans l'état de péché mortel. Mais il le permet. Une personne qui volontairement reste dans le péché mortel, est une personne qui ne sauvera pas son âme, malheureusement. Il faut bien comprendre ça. Donc, de volonté antécédente, bon Dieu veut le salut de tous les hommes. C'est l'oraison sur la... certaines des oraisons, justement, sur la miséricorde du bon Dieu, expliquent très bien ces choses-là. Le bon Dieu veut le salut de tous les hommes, de volonté antécédente, mais il respecte encore une fois notre volonté personnelle de refuser le bon Dieu. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus on a laissé les passions s'entretenir dans nos âmes, plus on a donné de force aux passions, plus on a du mal, si vous voulez, à suivre la volonté du bon Dieu. Et le bon Dieu, encore une fois, permet que ces passions prennent total contrôle de notre âme, avec des conséquences épouvantables pour l'âme, mais encore une fois, le bon Dieu est plein de miséricorde, mais en même temps, il est juste. Alors, c'est toute l'association, si vous voulez, qui était encore une fois un grand mystère. Le mystère de la prédestination, c'est un peu ça, c'est l'association de la justice et de la miséricorde du bon Dieu. Est-ce que le bon Dieu peut être parfaitement miséricordieux sans être parfaitement juste? Non, c'est impossible. Le bon Dieu est parfaitement juste, et parce qu'il est parfaitement juste, il est parfaitement miséricordieux. Il est parfaitement miséricordieux parce qu'il est parfaitement juste. On ne peut pas séparer les deux. Le bon Dieu, dans sa justice, utilise toujours la miséricorde, parce qu'il est Dieu. Nous, on a tendance à séparer la justice et la miséricorde. Le bon Dieu n'est pas comme ça. Le bon Dieu respecte la justice et respecte la miséricorde. Et là, encore une fois, ce sont des sujets qui sont délicats, qui sont difficiles. Il faut faire attention, surtout quand on explique ça aux adolescents, de ne pas les pousser à la révolte. Si on ne fait pas attention, c'est ce qui peut arriver. Alors, saint Thomas, justement, va parler de cela dans la question numéro 79, article 4, qui est le dernier article de cette question, donc très importante, 79, de la cause du péché par rapport à Dieu. Et donc, il va se poser cette question, savoir si l'aveuglement et l'endurcissement ont toujours pour fin le salut éternel. Eh bien, il faut voir justement les choses de façon avec si vous voulez, l'esprit du bon Dieu, quoi. Il faut arriver à comprendre les choses telles que bon Dieu les comprend, ce qui est impossible en soi. On ne peut pas comprendre les choses telles que bon Dieu les comprend. Il faut essayer de voir les choses avec le regard divin. Le bon Dieu sait ce qu'il fait. Le bon Dieu sait ce qu'il fait. Le bon Dieu respecte nos non-libre-arbitre, mais il sait ce qu'il fait. Et le bon Dieu est toujours miséricordieux. Cependant, la miséricorde n'exclut pas la justice. L'exemple qu'on peut donner, c'est l'exemple d'une maman qui se rend compte que son fils, son garçon de 5 ans, vole dans son portefeuille. Donc tous les matins, le petit il prend 50 centimes dans le portefeuille de maman sans permission. Donc c'est un vol, hein, c'est un péché contre la justice. Donc la maman s'en rend compte, elle parle à l'enfant et elle demande à l'enfant d'arrêter. L'enfant promet d'arrêter, mais continue de voler. Tous les matins, il continue de voler. Est-ce qu'il faudrait, comme diraient les modernes, que puisque l'enfant vole tous les matins 50 centimes, bon, il faut respecter tout ça, moi, c'est quand même pas grand-chose, 50 centimes, c'est presque rien, comme ça, donc laissez courir la chose, et tant pis si votre fils prend les habitudes de vice, du vice de vol. Bien sûr que non. Mais madame, il faut pratiquer la miséricorde, donc il faut que la maman pardonne. La maman doit pardonner et va pardonner si l'enfant regrette ce qu'il a fait. Et si l'enfant arrête de pécher, si l'enfant dit « Oui, maman, je vous demande pardon, je ne recommencerai plus, promis », qu'il recommence le lendemain matin, la maman va partir de pardonner. Si l'enfant, au contraire, dit « Maman, je vous demande pardon de ce que j'ai fait » et effectivement arrête de pécher, alors la maman pardonne. Même si de temps en temps, il rechute. Même si l'enfant a promis qu'il ne rechuterait pas, si malheureusement il rechute de temps en temps, mais que l'enfant continue ses efforts, la maman pardonne. Par contre, s'il n'y a pas d'effort L'enfant, la maman ne pardonne pas. Et si la maman pardonnait à l'enfant alors qu'il n'y a aucun effort et aucune volonté d'arrêter de pécher, c'est la maman qui pécherait. Parce que ce moment-là, elle pécherait par faiblesse. Elle refuserait d'utiliser les grâces que lui a donné le bon Dieu en tant que mère de famille, les grâces du sacrement de mariage, pour remplir son devoir d'État par rapport à ceux dont elle a la charge. Elle pécherait gravement en pratiquant la miséricorde, en oubliant la justice. Quand la miséricorde oublie la justice, il n'y a plus de miséricorde. C'est l'injustice qui prime. Voilà ce qu'il faut comprendre. Nous allons expliquer tout ça avec cet article de conclusion, si vous voulez, de la conclusion de la question numéro 79. L'aveuglement, l'endurcissement sont-ils ordonnés au salut des pécheurs? Vous verrez que saint Thomas explique de façon extraordinaire. Hein. Ensuite, nous passerons, si Dieu veut, à la question 80 de la cause du péché par rapport aux démons. Donc, saint Thomas ici s'occupe dans la question 79 des causes du péché par rapport à Dieu, maintenant, par rapport aux démons, on va voir tout ça. Donc, prochaine conférence, donc la semaine prochaine. En général, je mets toujours les conférences le samedi précédent, la semaine où je n'ai pas donné, avant de donner le cours. Donc, je mets en général les cours, et le sermon d'ailleurs, le samedi soir pour la semaine suivante. Donc, samedi soir, je mets le sermon pour le dimanche suivant, le lendemain, et puis également la conférence de doctrine sur la soteriologie de saint Thomas d'Aquin. Donc vous aurez toujours ça, si Dieu veut, sur le site d'Âme Marie. Nous allons terminer par une prière.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pilice, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.